Bonjour à tous. Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Je me présente, Jocelyne Dazé, chargée de projet aux événements à la direction de la programmation culturelle BANQ. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui M. Claude Lacharité, titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire littéraire et professeur au département des lettres de l'Université du Québec à Rimouski. Claude Lacharité nous fait découvrir, grâce à des documents inédits, l'histoire de l'Institut littéraire de Rimouski, dont on doit en bonne partie la naissance, le 15 avril 1855, à un don de 500 volumes de Joseph-Charles Taché, écrivain, journaliste et homme politique. Éric Bouchard, agent de recherche à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, nous entretiendra par la suite des travaux de BANQ au sein du projet d'inventaire des imprimés anciens du Québec. La rencontre sera suivie d'une période de questions. Je vous rappelle qu'il est interdit d'enregistrer ou de prendre des photos. Vous pourrez d'ailleurs réentendre l'entretien sur le site de BANQ et le dire à tous vos amis qui ne sont pas là aujourd'hui. Alors, bonne rencontre. Merci.
Bien, alors d'entrée de jeu, vous me permettrez quand même de remercier Bibliothèque et Archives nationales du Québec de m'offrir cette possibilité extraordinaire de prononcer donc cette conférence devant vous aujourd'hui sur cet institut littéraire de Rimouski. Il faut dire qu'il s'agit d'un projet qui est toujours en cours et sans le soutien actif, généreux de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ce projet aurait été tout simplement impossible et je voudrais donc, si vous me le permettez, non pas remercier chaque individu parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux, mais remercier collectivement à la fois la direction de la programmation culturelle et aussi la direction de la recherche et de l'édition parce que le projet dont je vais vous parler aujourd'hui s'inscrit dans le cadre plus général de l'inventaire des imprimés anciens conservés au Québec, le projet IMAC. Éric Bouchard vous en reparlera un petit peu plus tard. Et évidemment, ce vaste projet-là qui est mené à l'échelle du Québec est mené aussi à Rimouski, à partir de la bibliothèque patrimoniale du Grand Séminaire de Rimouski. Et il faut dire que BANQ là, a été un partenaire absolument essentiel, déterminant. Rien de tout cela, encore une fois, n'aurait été possible sans le soutien très généreux de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Alors, comme j'ai très peu de temps à ma disposition, vous me permettrez de me dispenser de faire un certain nombre de remarques sur la critique des sources, sur la nature des archives que je vais exploiter. Il y a évidemment un certain nombre de problèmes méthodologiques qui se posent, mais je crois que lorsqu'il est question de plomberie, il vaut mieux être entre plombiers. Et comme je sais que vous n'êtes pas des plombiers, je vais m'en tenir, si vous voulez, simplement aux grandes lignes que l'on peut dégager à partir d'un certain nombre de découvertes que j'ai faites dans le sillage de cet inventaire de la collection du Grand Séminaire de Rimouski. Évidemment, rien n'empêche qu'après, pendant la période de questions ou même de façon informelle, on puisse discuter de questions plus méthodologiques, voire de critique des sources. Très bien. Alors, je veux quand même vous dire un mot de l'iconographie. Vous allez voir apparaître au moins deux fusains, dont le premier est déjà affiché à l'écran. Alors, ce sont des fusains de Joseph-Charles Taché lui-même, excusez-moi, conservés dans les archives de l'archidiocèse de Rimouski. Et ce que vous voyez, évidemment, à l'écran, c'est Rimouski. À la fin des années 1840 et au début des années 1850, donc à une époque qui est pratiquement contemporaine de l'histoire littéraire, de l'Institut littéraire de Rimouski. Vous remarquerez, pour celles et ceux d'entre vous qui sont déjà allés à Rimouski, un bâtiment qui vous est peut-être un peu familier, la petite église de pierre qui est représentée donc dans le fusain. Il s'agit de la plus ancienne de l'Est du Québec, mais c'est là que se trouve aujourd'hui le musée régional de Rimouski. Je pense que vous pouvez certainement reconnaître très facilement au moins la partie inférieure du bâtiment là, qui n'a pratiquement pas changé depuis le 19e siècle. Alors, je vous montre tout de suite le plan. Vous verrez que j'ai été très ambitieux, que pour couvrir ces 12 points-là, il faudra que je m'en tienne à peu près à 5 minutes pour tenir dans le temps qui m'est imparti. Donc, je vais essayer d'être aussi bref et concis que possible, quitte à, bien sûr, passer sur un certain nombre de détails. C'est un peu une mission impossible, digne de Jack Bauer. Il faudra que j'essaie de sauver deux fois la vie du président et que j'essaie de démanteler aussi 5 ogives nucléaires en moins de 60 minutes. Bien. Alors, l'Institut littéraire de Rimouski. Je pense que, premièrement, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est le fait que cet institut littéraire n'est absolument pas un cas unique au Québec. Ça s'inscrit évidemment dans un contexte beaucoup plus général qui se situe donc dans les années 1840-1850, période pendant laquelle on va assister à une véritable prolifération d'associations, d'instituts de toutes sortes, partout au Québec et même en Nouvelle-Angleterre. Yvan Lamonde, qui s'est intéressé à la question, a tenté de faire un premier inventaire et il a recensé tout près d'une cinquantaine de ces institutions littéraires et de ces associations littéraires diverses. Et donc, l'Institut n'est que, je dirais, la succursale rimousquoise de ce vaste phénomène culturel aux quatre coins du Québec. On a voulu interpréter ce phénomène comme une des conséquences les plus évidentes de la répression des rébellions des patriotes et de l'union des deux Canadas. Les Québécois de l'époque, semble-t-il, ont été confrontés à une sorte d'impuissance politique et ont été désillusionnés par rapport aux grands projets de société qui les avaient mobilisés à l'époque des patriotes. Et évidemment, avec l'union des deux Canadas, c'est un peu, je dirais, la fin d'un beau rêve politique, de sorte que beaucoup de Québécois de l'époque ont éprouvé la nécessité d'inventer de nouveaux lieux de sociabilité, de rencontres, de débats, de discussions en marge, si vous voulez, de la grande chambre d'assemblée et des institutions politiques proprement dites. Les rares exemples que l'on a avant les années 1840, puisqu'il y en a quand même, sont essentiellement le fait d'associations anglophones. La plus célèbre d'entre ces sociétés anglophones, c'est bien sûr la Quebec Literary and Historical Society, au sein de laquelle œuvrent bien sûr des francophones, comme par exemple Philippe Aubert de Gaspé-Père ou Georges Barthélémy Faribault, mais il reste que bien sûr les activités de ces sociétés se déroulaient en anglais. Par ailleurs, évidemment, ça n'est pas non plus un phénomène propre au Québec. Il y a eu quand même un certain nombre d'exemples antérieurs en Europe dès la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle, entre autres des cabinets de lecture en Europe continentale et aussi des Mechanics Institutes en Angleterre et en Écosse. Évidemment, mécanique, c'est à entendre dans un sens très large de travailleurs manuels. Il s'agissait au fond d'instituts qui visaient à combler une éducation parfois un petit peu élémentaire que ces travailleurs manuels, dont ces les travailleurs manuels avaient bénéficié. Il s'agissait au fond d'une sorte de, si on peut utiliser un anachronisme, de formation permanente ou de cours du soir pour remédier, disons, à une éducation imparfaite. L'exemple le plus connu est évidemment l'Institut canadien de Montréal. Et je sais qu'il y a actuellement en cours, je crois, à BANQ, une exposition sur ce célèbre institut, célèbre entre autres pour ses nombreux démêlés avec l'évêque de Montréal de l'époque, Monseigneur Bourget. Cela dit, il faudrait se garder d'imaginer que tous les instituts et toutes les associations littéraires étaient comparables à l'Institut canadien de Montréal, qui est un peu exceptionnel. Exceptionnel sur le plan idéologique, sur le plan politique, sur le plan de l'engagement. C'est véritablement un institut libéral, laïque, anticlérical. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les autres instituts ne seront pas parfaitement à l'image de cet Institut canadien de Montréal, entre autres l'Institut canadien de Québec, qui sera fondé quelques années après et qui visera, entre autres, à ne pas répéter ce qui est perçu comme les erreurs de l'Institut canadien de Montréal et qui va donc chercher à éviter toute espèce de confrontation directe avec le clergé et avec l'Église catholique. L'Institut littéraire de Rimouski, on le verra tout à l'heure, est probablement beaucoup plus proche de l'esprit de l'Institut canadien de Québec, voire des instituts fondés par l'Église catholique, parce qu'évidemment, très rapidement, l'Église va s'apercevoir qu'il y a un réel engouement pour ces instituts et que si on ne peut pas combattre l'Institut canadien sur son propre terrain, ben, il faut essayer peut-être de mettre en place des structures alternatives où on peut chercher en quelque sorte à endiguer la propagation des idées libérales, anticléricales, laïques. L'Institut littéraire donc de Rimouski aurait été fondé au début de 1855. Je vous montrerai dans un instant un document d'archives que je considère un peu comme l'acte de naissance de cet institut, donc sans doute vers le mois d'avril 1855. En revanche, il est très difficile de dater la fin et la disparition de cet institut, comme beaucoup d'associations de ce genre. Évidemment, elle semble avoir été emportée par une sorte d'inertie, si bien que personne n'a pris la peine de consigner par écrit l'acte de décès de cet institut. Il faut dire que s'il y a eu autant d'associations et d'instituts littéraires dans ces années-là, c'est en partie grâce à l'adoption d'une loi par le Parlement du Canada uni qui finançait les bibliothèques et les associations littéraires de ce genre en proposant un financement à hauteur de 50 livres sterling, ce qui est quand même une somme conséquente pour l'époque, ce qui explique que, justement, donc dans la foulée de l'adoption de cette loi en 1852, il y a eu un très grand nombre d'associations de bibliothèques créées un peu partout aux quatre coins du Québec. Et l'Institut littéraire de Rimouski, ben, si elle est fondée en 1855, on voit bien que c'est une des retombées directes de cette fameuse loi. Sauf que cette loi va avoir évidemment une durée de vie limitée, et à partir du moment où on va, abroger cette loi et du même coup couper le financement de ces associations littéraires, ben, un très grand nombre vont forcément disparaître. Ça semble être aussi le cas de l'Institut littéraire de Rimouski. J'ai retrouvé dans les archives une mention de 1867. Donc, au moins jusqu'en 1867, l'Institut a été vraisemblablement actif, puisque dans un roman inédit écrit par l'abbé Louis-Édouard Bois, qui est consacré à l'ermite de l'île Saint-Barnabé. Vous savez, au large de Rimouski, il y a une très belle île sur laquelle, au XVIIIe siècle, pendant presque 40 ans, un personnage assez énigmatique a vécu en ermite. Et donc, l'abbé Louis-Édouard Bois, en 1867, écrit un roman pour essayer de mettre en scène ce destin peu commun. Et donc, dans ce roman, il écrit la chose suivante que je vous cite. « Rimouski ne comptait pas à cette époque, il s'agit évidemment du XVIIIe siècle, de l'époque de l'ermite, ni homme de lettres, ni gens de profession. Pas d'organisation municipale ni même paroissiale. Rimouski n'était alors encore que la terre de l'Orignal, puisque, vous savez, l'étymologie du mot signifie terre de l'Orignal. On n'y voyait ni le collège qui fait son orgueil, fondé en 1862, ni son institut que préconise au loin un aimable enfant du sol. » Alors évidemment, l'aimable enfant du sol, c'est bien sûr Joseph-Charles Taché, dont je reparlerai dans un instant, qui est né à Kamouraska. Et la raison pour laquelle il préconise au loin cet institut, c'est parce que, à partir de 1864, Taché vivra à Ottawa, où il sera sous-ministre de l'agriculture jusqu'à sa retraite. Mais il semble que, même à Ottawa, il ait continué à entretenir des liens avec cet institut littéraire de Rimouski, et qu'il ait même fait don de la collection de l'institut littéraire au collège qui deviendra bientôt séminaire en 1870. Donc, en gros, on peut dire que l'Institut a eu au moins, je dirais, une bonne douzaine d'années d'existence, de 1855 à 1867. Très probablement que l'Institut va disparaître dans le sillage de la conversion du collège de Rimouski en séminaire en 1870. Je passe maintenant donc à ce fameux acte fondateur du 15 avril 1855. C'est un document qui est conservé dans le fond de la famille Taché au centre d'archives de BANQ à Québec. Et il s'agit d'une lettre de remerciement que les membres fondateurs de l'Institut littéraire de Rimouski adressent à Joseph-Charles Taché, qui est alors représentant du Canada à l'Exposition universelle de Paris, pour le don de 500 volumes de sa bibliothèque personnelle qu'il a fait donc à cet institut naissant. Alors évidemment, ça n'est pas à proprement parler un acte fondateur, ça n'est pas, je dirais, une constitution en règle, il s'agit simplement d'une lettre de remerciement, mais comme dans ce texte, qui est le plus ancien que j'ai pu retrouver, on fait allusion au fait qu'il s'agit d'une institution naissante, on peut à peu près dater la naissance, la fondation de cet institut grâce à ce document. Alors je vous propose peut-être de le lire ensemble, je me suis permis d'en faire une transcription parce qu'évidemment, les écritures manuscrites des archives ne sont pas toujours faciles à lire, alors vous avez le texte transcrit à l'écran. « Très estimable monsieur, veuillez nous permettre, à nous, membres de l'Institut littéraire de Rimouski, de vous présenter nos plus sincères remerciements pour le don si généreux que vous venez de faire à notre institution naissante de votre précieuse bibliothèque comprenant près de 500 volumes. Nous saisissons cette occasion pour vous féliciter de l'honorable choix qu'a fait de votre personne le comité de l'Exposition du Canada pour représenter le Canada à l'Exposition universelle de Paris. » Bon. On voit qu'il s'agit bel et bien d'un premier jet parce que cette phrase aurait eu sérieusement besoin d'être un peu revue et corrigée. Au moment de vous séparer de nous pour entreprendre ce voyage de longue durée, veuillez croire à la sincérité des vœux que nous adressons tous au ciel pour que l'ange du Seigneur vous conduise sûrement et vous ramène sain et sauf au sein de votre famille et au milieu de vos meilleurs amis parmi lesquels vous voudrez bien nous compter. Rimouski, 15 avril 1855. Et suit, bien entendu, la signature de 28 membres fondateurs de cet institut, à commencer par celle de Cyprien Tanguay, donc qui est tout en haut et qui est vraisemblablement le rédacteur, l'auteur de cette lettre de remerciement, et qui est alors le curé de la paroisse de Saint-Germain-de-Rimouski, puis suivent, entre autres, Pierre Gauvreau, François-Xavier Poulain, Louis-François Garon, qui sera le secrétaire de l'Institut, Louis Gauvreau, James Smith, Majorie Côté, etc. Alors, je ne vais pas tous les énumérer parce que ce serait un peu fastidieux. Cela dit, grâce aux données du recensement de 1851, j'ai pu identifier de manière certaine ou conjecturale 27 des 28 membres fondateurs de cet institut, seule une signature est illisible encore à ce jour. On ne trouve sans grande surprise aucune femme dans cette assemblée. C'est bien dommage parce qu'on sait que les femmes ont joué un très grand rôle dans la vie littéraire au 19e siècle. Cela dit, dans les institutions un peu formelles comme l'Institut, elles étaient généralement exclues. En comptant Joseph-Charles Taché, qui est le fondateur, on relève au moins 3 écrivains, au sens très général d'auteurs d'œuvres publiées, dont je reparlerai un peu plus tard. Ce qui est également intéressant, j'en viens à mon point suivant, l'origine sociale des membres, ben, c'est de voir un peu la diversité des membres de cet institut du point de vue de, justement, leur extraction sociale. Alors, sans grande surprise, évidemment, on trouve un membre du clergé, puisque, bien sûr, les curés, les prêtres, les clercs, de façon générale, étaient nos premiers intellectuels, si on veut, dans l'histoire du Québec. Et on a vu que la lettre était donc rédigée vraisemblablement par Cyprien Tanguay, le curé de la paroisse de Saint-Germain de Rimouski. On trouve également, sans grande surprise, un certain nombre de représentants des professions libérales, des notaires, entre autres, Pierre et Louis Gauvreau, le médecin François-Xavier Poulain, l'arpenteur Georges Caron, le clerc de notaire Jean-Baptiste Lepage et l'huissier Pierre Deroche. On trouve également, là encore, sans grande surprise, des membres de la petite bourgeoisie marchande, comme les marchands Majorie Côté, Jean Lepage et Adolphe Martin, et puis aussi un commis, Pierre Chouinard. La présence d'artisans, quant à elle, il y en a 2 en tout, est déjà un petit peu plus étonnante. Par exemple, on trouve un Bernard Duberger, qui était un artisan spécialisé dans la construction navale, et évidemment, c'était déjà quelque chose d'important à Rimouski au 19e siècle, et aussi un certain Thomas Primo. Enfin et surtout, il faut souligner le très grand nombre de cultivateurs parmi les signataires de cette lettre de remerciement, entre autres Thomas Parent, Nicolas Bouchard, Nicolas Lévesque et Louis-Jacques Lepage. Vraisemblablement, mais malheureusement, les archives ne sont pas aussi riches que je l'aurais souhaité. On sait bien peu de choses à propos de ces cultivateurs, mais il faut sans doute imaginer des cultivateurs relativement prospères et certainement pas des travailleurs, disons, saisonniers ou journaliers qui vivent dans une relative précarité. Mais ce qui est, je dirais, assez fascinant, c'est de voir qu'au fond, tous ces gens-là cohabitent, coexistent au sein de cet institut littéraire de Rimouski. Et je crois que la constitution même de l'institut a un peu déterminé les orientations, le choix des thèmes et des sujets des conférences présentées à l'Institut littéraire de Rimouski. J'en viens maintenant à mon point suivant, le mandat et les activités. Alors malheureusement, les archives nous manquent. Il faut dire que j'ai essayé là de retrouver le plus grand nombre de documents possible, mais la moisson n'a pas été très, très abondante, si bien que j'ai été souvent réduit à multiplier les analogies avec d'autres instituts, d'autres associations littéraires de la même époque, et à tirer, disons, le maximum d'informations des quelques documents que j'avais à ma disposition. Alors on n'a pas, par exemple, de constitution, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas non plus la liste des conférences, on n'a pas non plus les dates des rencontres de cet institut. Mais, en tout cas, on peut légitimement penser qu'il s'agit d'une association en tout point conforme à celle qui existait un peu partout au Québec à la même époque. Et on peut présumer que l'Institut poursuivait à peu près les mêmes objectifs que les associations analogues, à savoir principalement, et d'abord et avant tout, remédier à l'absence d'institutions d'enseignement supérieur, d'une part, donc, et deuxièmement, d'autre part, remédier à l'absence de bibliothèques publiques. Évidemment, vous allez me dire, mais quand même, depuis 1852, existait une université de langue française, l'Université Laval. Mais évidemment, l'Université Laval, en 1955, est encore extrêmement embryonnaire. Il y a tout au plus, je dirais, une demi-douzaine de professeurs et peut-être le double ou le triple d'étudiants. Et encore, ces étudiants viennent généralement de Québec, de la région immédiate. Et il était très difficile pour les Rimouskois de l'époque de pouvoir envisager ce type de cursus dans la mesure où, avant de fréquenter l'université, il fallait évidemment passer par les collèges classiques. Or, il n'y aura pas de collège classique à Rimouski avant 1862. Et de sorte que, je dirais, au fond, à toute fin pratique, malgré l'existence de l'Université Laval, on peut dire que, pour ce qui est de Rimouski et de la région immédiate, il n'y avait pas, à toute fin pratique, d'institution d'enseignement supérieur. Je vous ai mis à l'écran une citation qui est tirée du discours que le président de l'Institut canadien de Québec a prononcé à l'occasion du 50e anniversaire de fondation de l'Institut donc canadien de Québec, et qui rappelle un peu les conditions et les circonstances dans lesquelles cette institution avait vu le jour. Et je crois qu'on peut très bien appliquer presque mot à mot ce qui est dit là à la situation de Rimouski en simplement en changeant Institut canadien par Institut littéraire de Rimouski. Et je lis le texte avec vous. À l'époque où l'Institut canadien fut fondé, Québec était loin d'être intellectuellement outillé comme il l'est aujourd'hui. Les bibliothèques publiques étaient à peu près inconnues, celle de l'Université Laval n'existait pas encore, celle du Parlement était à Montréal, alors capitale de la province. La population anglaise avait déjà la Société littéraire et historique à laquelle on allait réunir la bibliothèque de l'Association de Québec. Mais la population française était dépourvue de tout moyen de compléter des études sérieuses. Les riches seuls pouvaient se payer le luxe d'une bibliothèque privée, et les riches ont toujours été rares parmi nous. C'est pour combler un pareil vide que l'Institut fut fondé. Alors, cette volonté de constituer l'équivalent d'une bibliothèque publique est manifeste dans la lettre de remerciement à Taché. Le geste de Taché doit se comprendre comme le désir de mettre à la portée du plus grand nombre son exceptionnelle bibliothèque privée. Par ailleurs, on sait que les instituts avaient aussi pour mandat d'organiser des conférences publiques. De ce point de vue, l'Institut de Rimouski ne fait pas exception. Le journal de l'instruction publique, dans un très court entrefilet, dont j'aurais aimé qu'il soit un peu plus développé, mais hélas, il faut composer avec les archives qui sont à notre disposition, rapporte le don de Taché à l'Institut littéraire de Rimouski en précisant que ses membres se réunissent chaque semaine. Alors évidemment, il s'agit probablement d'une exagération à des fins de propagande. On imagine mal que l'Institut ait effectivement réussi à réunir ses membres chaque semaine parce qu'on ne trouvait même pas l'équivalent ni à Québec ni à Montréal. Mais je vous cite ce que j'ai trouvé dans cet entrefilet. Et la suite du texte dit donc que ses membres se réunissaient chaque semaine pour discuter ou lecturer, évidemment, l'anglicisme pour donner une conférence, sur quelques sujets d'histoire, de philosophie, d'industrie en présence d'une assistance toujours nombreuse. Alors ça aussi, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, une assistance toujours nombreuse dans le contexte du Rimouski du 19e siècle? On sait qu'il y avait 28 membres fondateurs. On imagine mal que ces 28 membres fondateurs aient assisté assidûment à toutes les réunions. Donc, il faut imaginer que cette assistance nombreuse devait, j'imagine, se limiter à une dizaine de participants, tout au plus. Nous ne disposons malheureusement pas du titre des conférences ou du nom des conférenciers. En revanche, on voit clairement le caractère encyclopédique de la littérature dont l'Institut cherchait à faire la promotion. Il faut bien sûr entendre littérature dans son sens très général, non seulement les belles lettres, mais aussi l'ensemble des connaissances humaines et tout ce qui s'était écrit dans tous les genres et dans toutes les langues depuis les origines. C'est un peu le type de définition que l'on donne généralement à la littérature sous l'Ancien Régime et encore jusque très tard au 19e siècle. J'en viens maintenant à la bibliothèque. À nouveau, les données nous manquent pour reconstituer le catalogue de l'Institut littéraire de Rimouski et à tout le moins les 500 volumes offerts par Joseph-Charles Taché. Il semble qu'aucune trace écrite n'ait été conservée d'un tel catalogue. Cependant, Louis-Philippe Romuald Sylvain, qui a cherché à retrouver des exemplaires dans le fond du séminaire de Rimouski en 1935, n'a pu repérer, lui, qu'un seul volume, mais qui est extrêmement précieux en raison de la mention manuscrite qui était portée sur cet exemplaire du tome 6 du dictionnaire de Trévoux. Vous savez, le dictionnaire de Trévoux, c'est cette vaste compilation qui avait été menée, entre autres, par les jésuites, comme une sorte de projet qui visait à réfuter en partie les idées des Lumières et celles de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Donc, dans ce tome 6 du dictionnaire de Trévoux, Monseigneur Sylvain a relevé la notation manuscrite suivante, qui est extrêmement éclairante et qui date de 1867. Je vous la lis. Joseph-Charles Taché, écuyer, chevalier de la Légion d'honneur, a donné au Collège de Rimouski toute la bibliothèque de l'Institut de Rimouski. Donc, ce qui montre bien qu'en 1867, vraisemblablement, l'Institut existe toujours et que la collection de livres initialement donnée par Taché à l'Institut va finir par se retrouver au Collège, qui finira par devenir séminaire en 1870. Je fais simplement un petit aparté pour vous dire que la collection patrimoniale de livres du Grand Séminaire est aujourd'hui conservée à Lucar, dans un centre qui s'appelle précisément le Centre Joseph-Charles Taché. Et si on a donné ce nom de Joseph-Charles Taché à ce centre, c'est précisément pour rappeler le don initial de Taché à l'Institut et évidemment toute l'histoire ultérieure de cette collection de livres qui se retrouvera finalement au séminaire. Malheureusement, dans l'inventaire en cours, on n'a pas retrouvé ce tome 6 du dictionnaire de Trivoux, qui était probablement conservé dans la bibliothèque du petit séminaire et non pas du grand séminaire. Et il semble que lorsque le petit séminaire a été converti en cégep à la fin des années 1960, on a procédé à un certain nombre d'élagages, comme ça s'est fait un peu partout au Québec à la même époque. Par ailleurs, et c'est là un détail extrêmement intéressant, le journal de l'instruction publique mentionne que Taché aurait également donné à l'Institut des brochures et des manuscrits précieux. Et ça, c'est vraiment très important parce que on a l'impression qu'il s'agissait que de livres, mais vraisemblablement, il y avait sans doute aussi un certain nombre d'occasionnels, de petits feuillets plus ou moins, je dirais, au statut plus ou moins précaire, et surtout des journaux. Et quand on sait la place et l'importance qu'occupait la presse périodique au 19e siècle, c'est pas très étonnant. Les membres qui fréquentaient les instituts littéraires étaient très souvent des lecteurs très avides de journaux. On y allait pour lire les plus récents journaux des quatre coins du monde. Or, dans les archives de l'Université Laval, il existe deux répertoires, et je vous ai reproduit les pages de titre à l'écran, un répertoire des brochures composant la collection de Joseph-Charles Taché et un répertoire des journaux composant la collection de Joseph-Charles Taché. Vous voyez tout de suite que la calligraphie est extrêmement soignée. Il s'agit vraisemblablement d'un document d'apparat qui n'était certainement pas destiné à l'usage personnel de Joseph-Charles Taché, ce qui m'amène à formuler l'hypothèse qu'il s'agit là peut-être, mais il faudra évidemment creuser davantage cette hypothèse, d'une trace écrite du don fait par Taché à l'Institut littéraire de Rimouski, d'autant plus que, je dirais, les données que l'on peut extraire de ces deux répertoires concordent assez bien avec, d'une part, le séjour rimouskois de Taché, puisque Taché va séjourner à Rimouski de 1844 à 1857. Or, la plupart des journaux et des brochures et des livres mentionnés dans ces deux répertoires datent précisément de cette période. Et d'autre part, on sait que Taché va quitter définitivement Rimouski pour Québec en 1858, si bien qu'on imagine que, au fond, Taché a pu très bien faire officiellement son don de manière concrète et pratique au moment de quitter pour Québec et qu'il a jugé utile de garder par-devers lui une trace écrite de l'ensemble des répertoires et des brochures qu'il a pu offrir. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais je dirais simplement qu'il y a effectivement, donc, comme dans les instituts d'époque, les journaux d'à peu près partout, de toutes les tendances politiques, de toutes les tendances idéologiques, du Québec, du Canada anglais, des États-Unis et d'Europe. Et ça semble très bien concorder avec l'idée que l'on a, par ailleurs, des instituts et des associations littéraires de l'époque. Par ailleurs, parmi les brochures, on trouve un certain nombre de titres qui correspondent très exactement au champ d'intérêt des conférences et des sujets de conférences présentés à l'Institut littéraire de Rimouski. Donc, un certain nombre de brochures relatives à l'histoire, relatives à la philosophie et relatives aussi à l'industrie dans le sens très large que l'on donnait à ces trois termes au 19e siècle. Je passe maintenant aux écrivains membres de l'Institut littéraire de Rimouski. J'ai dit tout à l'heure que parmi les membres fondateurs, donc parmi les 28 membres fondateurs, il y a au moins trois écrivains au sens strict, donc auteurs d'ouvrages imprimés, auxquels je pense qu'il faut en ajouter un quatrième, François Magloire de Rome. Alors, les trois écrivains en question, c'est bien sûr Joseph-Charles Taché lui-même, mais aussi Cyprien Tanguay, le curé de la paroisse qui deviendra, comme vous le savez, le père fondateur de la généalogie au Québec. Troisièmement, la troisième figure d'écrivain, c'est un personnage beaucoup plus obscur et beaucoup moins connu, un certain James Smith, qui était donc à la fois membre fondateur de l'Institut, mais aussi pédagogue et enseignant au Collège industriel et agricole de Rimouski, qui sera fondé la même année que l'Institut, en 1855, et il est probable que, je dirais, l'Institut et le Collège aient partagé un édifice commun loué à l'angle de la rue de la Cathédrale et de la rue Saint-Germain au 19e siècle. La quatrième et dernière figure, c'est François Magloire de Rome, je vous l'ai déjà dit. Pourquoi est-ce que je l'ajoute à cette série d'écrivains que l'on peut rattacher à l'Institut? Tout simplement parce que François Magloire de Rome arrive à Rimouski au moment où Taché quitte, c'est-à-dire en 1857. Et la raison pour laquelle François Magloire de Rome, qui est un juriste de formation, arrive à Rimouski, c'est parce qu'on vient de créer un tout nouveau district judiciaire dont le chef-lieu est Rimouski, et de Rome est embauché à titre de protonotaire, c'est-à-dire en gros l'équivalent d'un greffier de nos jours. Et donc, de Rome arrive à peu près au même moment que Taché quitte. Mais ce qui est peut-être le plus important à propos de ce de Rome, c'est que c'est surtout et peut-être d'abord et avant tout un écrivain et un journaliste qui a été très, très actif dans les années 1830-1840. Et j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais je pense que, comme c'était le cas souvent au 19e siècle, chaque petite ville qui aspirait à une sorte de reconnaissance avait sa grande figure d'écrivain. Et je pense que pendant les années où Taché était à Rimouski, c'était bien sûr Taché lui-même, mais que Dorum va en quelque sorte assurer sur ce plan, je dirais, du capital symbolique, la relève ou la succession de Taché. Et il est à peu près certain, même si je n'ai pas encore retrouvé de documents d'archives qui l'attestent, que Dorum devait être très actif au sein de l'Institut littéraire de Rimouski et qu'il a probablement, en quelque sorte, joué le rôle que Taché y jouait à l'époque où il était encore à Rimouski. Alors, j'en viens tout de suite à Taché, à propos de qui il y aurait 100 000 choses à dire. C'était, de l'avis de l'abbé Casgrain, le plus universellement érudit des Canadiens. Et on sait que Casgrain et Taché ne s'aimaient guère, si bien que je crois qu'il faut, je pense, porter une attention particulière à cette description de Taché comme le plus universellement érudit des Canadiens. Il a touché un peu à tout. C'est très difficile de résumer un parcours aussi météorique que celui de Taché. Il a commencé, comme beaucoup d'hommes de sa génération, par être très proche des patriotes, à embrasser les idées des patriotes avec une ferveur assez exceptionnelle, pour ensuite devenir un ultramontain, puisqu'il sera le premier rédacteur en chef du Courrier du Canada, qui est le grand journal ultramontain qui se voulait l'équivalent de l'univers de Louis Veuillot. Mais il va finir, évidemment, par, je dirais, non pas se ranger, mais adopter peut-être des positions conservatrices un tout petit peu plus nuancées vers la fin de sa carrière. Et je crois qu'il y a beaucoup d'autres exemples d'hommes de cette génération-là qui ont eu un parcours similaire, si bien qu'en s'intéressant à Taché, on peut distinguer dans sa biographie, dans sa vie, dans son parcours, je dirais, l'évolution des idées politiques, esthétiques, littéraires de tout le Québec du 19e siècle. Je passe sur les anecdotes célèbres à son sujet. On raconte que c'est Philippe Aubert de Gaspé qui le raconte dans ses mémoires, que dans sa folle jeunesse, alors qu'il était un patriote forcené, comme Taché le dit lui-même, il refusait de s'habiller en utilisant les vêtements fabriqués en Angleterre, comme c'était la mode à l'époque, et il préférait l'étoffe du pays, donc il s'habillait en paysan canadien-français, ce qui était bien sûr un peu choquant à l'époque, puisque la hiérarchie sociale devait se lire, entre autres, dans la tenue vestimentaire, et on imaginait mal qu'un bourgeois, même un petit bourgeois comme Taché, s'habille en paysan. Il y avait quelque chose d'un peu troublant. Et évidemment, le bon Philippe Aubert de Gaspé, qui, lui, est très soucieux des conventions sociales, s'amuse beaucoup de cet écart de conduite du jeune et bouillant Joseph-Charles Taché. Juste pour vous brosser à grands traits son parcours, il est né, je l'ai dit tout à l'heure, en 1820 à Kamouraska. Il va ensuite entreprendre des études de médecine à Québec. Et après ses études de médecine, il va décider de s'établir à Rimouski, à la grande surprise de ses amis, qui vont d'ailleurs le surnommer l'Iroquois, en raison de son goût pour les cultures amérindiennes, qui est un goût assez unique à l'époque, il faut bien le dire, et aussi pour son goût pour la vie dans les bois. Semble-t-il que Taché aimait bien partir et suivre les communautés autochtones qui campaient à certains moments de l'année près de Rimouski et près de la rivière Rimouski, entre autres. Mais il a été donc très rapidement, je dirais, propulsé dans une carrière politique qui va l'amener à être conseiller municipal de Rimouski, député de Rimouski. Et on sait qu'à la fin de sa vie, il sera sous-ministre de l'Agriculture, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il a été aussi journaliste, écrivain, poète, conteur, pamphlétaire, idéologue, directeur de ce qui est probablement la plus célèbre revue littéraire du 19e siècle, les Soirées canadiennes, qu'il va d'ailleurs diriger seul dans les dernières années, puisque, semble-t-il, Taché avait un très mauvais caractère et il avait réussi assez rapidement à se brouiller avec tout le monde et avec tous les autres cofondateurs de cette revue. Et chacune de ces vocations, je ne peux pas entrer dans les détails, faisait appel évidemment à une multitude de compétences et de talents. Si on s'attarde simplement à son rôle comme sous-ministre de l'Agriculture à Ottawa de 1864 à 1888, on voit qu'un rôle comme celui-là l'amenait à traiter de questions aussi diverses que la santé publique. Parce qu'évidemment, le ministère de l'Agriculture au 19e siècle ne s'intéressait pas que à des questions de culture de la pomme de terre, mais aussi à des questions de santé publique, à des questions évidemment agronomiques, comme justement la culture de la pomme de terre, qui est quand même l'aliment de subsistance par excellence pendant tout le 19e siècle. Mais ce rôle l'amenait aussi à s'intéresser à des questions, par exemple, de recensement de la population, puisque le recensement relevait aussi du ministère de l'Agriculture à l'époque, et très étonnamment, également à des questions de droit d'auteur. Si vous avez déjà manipulé manipuler des imprimés du 19e siècle, vous savez qu'en général, en regard de la page de titre, il y a une mention qui dit « enregistré auprès du ministère de l'Agriculture de la province du Canada uni par un tel ». Et généralement, évidemment, c'est l'auteur qui prend le soin d'enregistrer lui-même son œuvre pour la protéger, même si, au sens strict, il n'existe pas encore véritablement de droit d'auteur au 19e siècle. Alors, le plus important, toutefois, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est, l'engagement très actif de Taché dans la vie associative littéraire au 19e siècle. Il a été le membre fondateur de beaucoup de sociétés, beaucoup d'instituts, entre autres la Société des Amis de Montréal, créée en 1842, qui finira par être absorbée par l'Institut canadien de Montréal. Il est également un des membres fondateurs de l'éphémère Société canadienne d'études littéraires et scientifiques de Québec, qui exista de 1843 à 1845, et aussi de l'Institut canadien de Québec, fondé en 1847. Donc, on voit à quel point cette vie associative est chère au cœur de Taché, et il n'est donc pas si étonnant qu'il ait voulu, en quelque sorte, reproduire l'équivalent dans sa ville de Rimouski en 1855. En 1846, à titre de correspondant, de membre correspondant de l'Institut canadien de Montréal, il va écrire un très long article publié dans les Mélanges religieux pour décrire le comté de Rimouski. Il s'agit là d'un document d'archives assez unique. C'est un des plus anciens documents sur la vie rimousquoise de cette époque-là, qui est assez mal connu. Et donc, il veut, en quelque sorte, rendre compte de ce que c'est que la géographie, la topographie, mais aussi les ressources naturelles, la vie culturelle de Rimouski dans ces années 1840. C'est dans ce texte qu'il va, entre autres, se justifier d'avoir choisi Rimouski comme lieu où vivre, finalement. Alors, je vous ai reproduit un extrait. Malheureusement, tout le texte mériterait notre attention, mais le temps nous est compté, encore une fois, et la vie du président des États-Unis est en jeu. Donc, je vais me contenter des deux petits extraits qui sont reproduits à l'écran. « C'est ici que j'ai fixé mon séjour, loin de la ville où des amis, que je remercie de leurs ailes, me faisaient un bel avenir au milieu des riches et des puissants. Mais je ne me sentais pas de taille, je suis avec Béranger, de l'avis de Turlupin. Si j'allais voir le roi, je voudrais qu'il ôte sa couronne quand je mettrais chapeau bas. D'ailleurs, il me faut l'air de la mer, la vue du grand fleuve, les cris du goéland, et puis j'aime tant à m'asseoir au foyer du vieux conteur. » Cet élément-là est extrêmement important en regard, je dirais, des pratiques littéraires ultérieures de Taché et en regard de l'œuvre qu'il publiera dans les années 1860. Par ailleurs, c'est un texte aussi intéressant parce que c'est un texte un peu programmatique qui annonce l'ensemble de l'œuvre à venir de Taché. Non seulement donc les contes et légendes qu'il publiera dans les soirées canadiennes, mais aussi toutes les publications qu'il fera paraître à l'occasion de l'Exposition universelle de Paris en 1855. C'est lui qui publie probablement le premier ouvrage à l'usage des lecteurs français pour décrire le Canada, sa géographie, sa topographie, son économie, ses ressources naturelles, ses produits manufacturés, puisque bien sûr l'Exposition universelle était aussi l'occasion de trouver des débouchés commerciaux à un certain nombre de produits. Et Taché, de ce point de vue-là, prend son rôle très à cœur. Alors, je vous lis l'extrait suivant et vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. « Je voudrais que l'Institut canadien entreprît un ouvrage qui soit une topographie du Canada en même temps qu'une petite excursion de touristes à travers notre beau pays et dont chaque partie séparée serait confiée à une ou plusieurs personnes. Chacune de ces personnes ferait donc une description du comté où elle réside ou qu'elle a bien connu. On pourrait joindre à ce rapport quelques pièces littéraires destinées à perpétuer le souvenir de quelques légendes populaires et faire du tout un ouvrage qui serait une œuvre vraiment nationale. » Et je crois qu'on là, on voit en quelque sorte en filigrane hein, un certain nombre d'idées que généralement on rattache plutôt à l'École patriotique de Québec des années 1860, mais qui se trouvent déjà formulées sous la plume de Taché dès les années 1840. Et on voit aussi à quel point, je dirais, l'abbé Casgrain, tout en ayant joué un rôle très important dans l'animation littéraire de Québec dans les années 1860, a été un peu devancé par un certain nombre d'autres personnages. Et je crois qu'on est toujours encore aujourd'hui un peu victime de la maestria avec laquelle l'abbé Casgrain savait orchestrer sa propre propagande et sa propre promotion pour se donner un rôle qui était certes important, mais qui n'était évidemment pas le seul à jouer dans le Québec du 19e siècle. Alors, je passe maintenant à Cyprien Tanguay. Je vous promets d'être beaucoup plus bref à propos de Cyprien Tanguay. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a été curé de Saint-Germain-de-Rimouski de 1850 à 1859. Il a joué un rôle important, semble-t-il, dans l'Institut littéraire de Rimouski. Mais il est aussi le fondateur du tout premier collège de Rimouski, le collège industriel et agricole, qui ouvre ses portes au printemps 1855, donc à quelques jours près, presque en même temps qu'est fondé l'Institut littéraire de Rimouski. Et d'ailleurs, de nombreux membres fondateur de l'Institut, jouait aussi un rôle actif dans le Collège industriel et agricole, si bien qu'on peut imaginer ces deux institutions comme un peu complémentaires. D'une part, je dirais, l'éducation des jeunes enfants, et puis d'autre part, l'éducation aux adultes, si vous me permettez encore une fois l'anachronisme, en cours du soir avec des conférences et avec la mise à disposition de journaux, de livres, d'imprimés, de toutes sortes. Alors, comme vous le savez, Tanguay est surtout connu comme l'auteur du monumental Dictionnaire généalogique des familles canadiennes, publié de 1871 à 1890. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que si Tanguay a pu écrire ce monumental dictionnaire, c'est parce qu'il était entré au ministère de l'Agriculture. Et sa lettre de nomination précise que s'il est nommé à ce poste, c'est pour constituer, je cite le texte même, « constituer la statistique civile et religieuse à dater des premiers temps du pays ». Et c'est bien parce qu'il avait à sa disposition cette statistique civile et religieuse qu'il a pu donc rédiger ce monumental dictionnaire. Évidemment, il s'agit de l'œuvre pionnière de la généalogie au Québec. Et même si cet ouvrage a été rédigé à Ottawa et publié à Montréal, il reste que, d'une certaine façon, on peut considérer que la genèse de ce dictionnaire remonte à l'époque de l'Institut littéraire de Rimouski, à l'époque où, évidemment, Taché était très proche de Tanguay. Et on peut, je pense, légitimement penser que si Tanguay entre au service du ministère de l'Agriculture en 1865, un an après Taché, c'est que c'est très certainement Taché devait y être pour quelque chose et devait certainement connaître le goût de Cyprien Tanguay pour l'histoire et pour la généalogie. Et d'ailleurs, dans l'édition publiée du dictionnaire, au tome premier, il y a un long poème qui est précisément consacré à Joseph-Charles Taché et qui, évidemment, le célèbre comme un véritable bienfaiteur. Alors, je ne vous lis pas l'intégralité du poème qui est tout de même assez maladroit, mais j'en extrais simplement une petite strophe. « Je vois briller sur ta poitrine, alors c'est Tanguay qui s'adresse à Taché, la noble étoile de l'honneur, à ton front la splendeur divine du savant, du littérateur. Tes talents, ta vertu, ton zèle ont fait seul toute ta grandeur, honneur aux citoyens modèles. » Bon, et tout le reste du poème est un peu à l'image de ce court extrait. Alors, on voit un petit peu, je dirais, dans les retombées indirectes de l'Institut littéraire de Rimouski, la place cruciale que devait tenir certainement l'histoire, comme d'ailleurs dans l'ensemble de la littérature du 19e siècle québécois. De ce point de vue, la généalogie n'est pas du tout une aberration, puisque c'est le complément naturel de l'histoire au 19e siècle et même encore parfois de nos jours. J'en viens maintenant à mon personnage suivant, James Smith, qui est un personnage méconnu, comme je l'ai dit, qui est né à Caraquet, au Nouveau-Brunswick, qui a fait ses études au Collège de Sainte-Anne, qui a ensuite entrepris des études au séminaire de Québec et qu'il va interrompre pour venir enseigner à Rimouski au moment où est fondé le Collège industriel et agricole. C'est un personnage aussi assez polygraphe, semble-t-il, puisqu'il a publié de nombreux articles dans les journaux de l'époque, entre autres Le Canadien, La Vérité, mais aussi Le Moniteur acadien de Chédiac. On a conservé de lui deux ouvrages imprimés, dont l'un extrêmement intéressant, « Les éléments de l'agriculture à l'usage de la jeunesse canadienne » par James Smith. Si vous remarquez bien la page de titre que j'ai reproduite à l'écran, sous le nom de James Smith, on nous précise « professeur d'agriculture au Collège agricole et industriel de Rimouski ». Donc, il s'agit là d'un ouvrage pédagogique à l'usage des élèves de ce Collège industriel et agricole. Mais je pense qu'on pourrait, si on en avait le temps, étudier de près ce manuel pour voir à quel point, finalement, il peut aussi nous renseigner sur les activités de l'Institut littéraire de Rimouski, puisque, comme on le sait, plus du tiers des membres de cet Institut littéraire de Rimouski étaient eux-mêmes des agriculteurs. Il a aussi publié beaucoup plus tard, en 1843, un autre ouvrage de nature pédagogique, « Les soirées de la baie des Chaleurs ». Le titre fait rêver, on pense aux soirées de Saint-Pétersbourg, mais ce n'est pas tout à fait dans le même esprit, puisqu'il s'agit d'entretiens sur l'éducation de l'enfance, et il s'agit d'un texte d'inspiration clairement gaumiste, mais je crois que là aussi, il y aurait beaucoup d'éléments à tirer qui nous renseigneraient un peu sur, je dirais, l'ambiance qui devait régner à l'Institut littéraire de Rimouski, et pas seulement au Collège industriel et agricole. J'en viens maintenant à mon dernier personnage, François Magloire de Rome, le continuateur de Taché. Je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est un personnage quand même important qui, bien sûr, est protonotaire pour gagner sa vie, mais je pense que dans la perception qu'il devait avoir de lui-même, il se considérait d'abord et avant tout comme un écrivain, un poète et un journaliste, comme beaucoup de ces bourgeois du 19e siècle. Et il faut dire que c'est un personnage qui avait quand même une certaine renommée, même si aujourd'hui il est à peu près oublié et parfaitement méconnu. Au 19e siècle, il jouissait quand même d'une réputation littéraire assez enviable, puisque au lendemain des révoltes des patriotes, il a publié un certain nombre de poèmes assez véhéments qui vont lui valoir d'ailleurs les foudres du pouvoir britannique colonial. D'autre part, dans la première anthologie, ce qu'on peut considérer comme la première anthologie de la littérature québécoise, publiée par James Houston en 1848, François Magloire de Rome est un des auteurs les plus souvent cités. Alors, on a avancé toutes sortes d'explications un peu malveillantes pour expliquer le fait qu'il soit aussi cité avec ce qui nous semble, à nos yeux de modernes, aussi peu de talent littéraire. Mais je crois qu'il faut non seulement supposer que, bien sûr, de Rome avait des liens privilégiés avec Houston, mais que, très probablement, les poèmes de Rome étaient très appréciés des lecteurs de l'époque. Et ça, je crois que c'est pas du tout une hypothèse qu'il faut balayer du revers de la main. Alors, est-ce qu'il y a des écrits de Rome que l'on peut rattacher à l'Institut littéraire de Rimouski et qui auraient été composés après 1867? La réponse est oui, il y en a un très grand nombre publiés dans les revues littéraires, dans les journaux et entre autres dans le premier journal de Rimouski, La Voix du Golfe, fondé en 1867. Je vais m'attarder seulement à un de ces poèmes qui est un poème publié d'abord dans le Foyer canadien et qui s'intitule, si vous me permettez de retrouver ma note, qui s'intitule « Voyage à Rimouski par eau ». Et je pense qu'il s'agit vraisemblablement d'un poème qui est à partie lié avec les activités de l'Institut littéraire de Rimouski, dans la mesure où il sera repris dans une publication collective de cet institut en 1873-74 sous la direction de l'abbé Charles Gué. L'abbé Charles Gué reprend donc un extrait de ce poème-là et je ne peux pas résister à la tentation de vous en lire un court extrait parce que c'est un texte assez, quand même, semble-t-il, connu à l'époque. Arthur Buis, entre autres, dans une de ses chroniques, fait une critique qui est évidemment tout à fait défavorable en disant que de Rome est un très mauvais poète. On ne peut pas imaginer style plus pompier que celui de Rome. Donc, manifestement, si Buis prend la peine de s'en prendre à lui, c'est qu'il devait représenter quand même quelque chose d'assez important dans, je dirais, l'économie d'ensemble du champ littéraire de ces années 1860. Alors, le texte est à l'écran. « Au parage lointain où le fleuve est immense, non loin des grandes eaux où l'océan commence, sur un banc de récifs et dans l'ombre du soir, l'île Saint-Barnabé dessine un long trait noir. Il faut jusqu'au détour en suivre le rivage. Par derrière s'élève au midi sur la plage le bourg de Rimouski, déjà tant orgueilleux de l'honneur infini d'être l'un des chefs-lieux. » Et évidemment, vous pouvez, je pense, très bien imaginer ce que Arthur Buis pouvait dire du vers final, l'honneur infini d'être l'un des chefs-lieux. Il trouvait ça, évidemment, d'un ridicule consommé. Bien, alors, je passe maintenant à ma troisième et dernière partie, l'œuvre littéraire de Taché et donc l'Institut littéraire de Rimouski. Après avoir parlé brièvement des principaux écrivains de cet institut, je voudrais maintenant évoquer rapidement les publications, les textes et les œuvres que l'on peut rattacher à cet éphémère institut littéraire, en commençant bien sûr par la figure de proue de Joseph-Charles Taché, dont la majeure partie de l'œuvre littéraire a été rédigée à l'époque de l'institut, ce qui n'a jamais été mis en évidence à ce jour par la critique. Je commence par les lettres de Paris. La première retombée de l'Institut littéraire de Rimouski est certainement la publication, dans le Journal de Québec, des 12 lettres que Taché adressera aux membres de l'Institut littéraire de Rimouski lors de son voyage en 1855 à l'occasion de l'exposition universelle. Alors, ces lettres-là, elles sont conservées dans le fonds de la famille Taché au Centre d'archives de Québec. Elles ont donc été bel et bien adressées aux membres de l'Institut et au secrétaire, M. Garon, dont on a parlé tout à l'heure, mais elles étaient parallèlement publiées dans le Journal de Québec, ce qui devait certainement, je dirais, contribuer à la notoriété toute relative là, de l'Institut littéraire de Rimouski à l'époque, puisque le Journal de Québec d'Augustin Côté est quand même très largement diffusé à l'époque. Alors, même s'il s'agit en partie d'un exercice de relations publiques destiné à faire valoir auprès de ses électeurs, mais aussi de tous les Canadiens, l'importance du rôle politique qu'il joue en tant que représentant du Canada à l'exposition de Paris, il faut dire que c'est quand même la première fois depuis la conquête qu'un Québécois se rend en France pour remplir une mission politique, donc c'est quand même extrêmement important. Et donc, je pense que Taché, d'abord et avant tout, publie ces lettres-là pour essayer d'expliquer l'utilité de ce qu'il fait. Il semble avoir été un peu incompris par les électeurs rimouskois qui lui ont reproché à son retour d'être allé, je dirais, faire du tourisme de luxe aux frais des contribuables. Mais l'idée est aussi, je pense, d'arriver à vulgariser un certain nombre d'éléments de culture générale à l'usage des membres de l'Institut littéraire de Rimouski. Et on voit très bien dans cette correspondance à quel point les questions encore d'histoire, de philosophie, d'industrie sont centrales. Et je crois que là aussi, on a une belle source pour essayer de reconstituer imparfaitement, certes, mais tout de même, le contenu, finalement, des conférences et de ce qui intéressait les membres de l'Institut littéraire de Rimouski. Je n'ai pas le temps, évidemment, de m'attarder à toute cette correspondance. J'en ai simplement prélevé un petit échantillon tiré de la lettre du 28 juin 1855, où Taché est un peu inhibé devant la tâche herculéenne qui l'attend, c'est-à-dire celle de devoir rendre compte de Paris, puisque c'est la première lettre qui concerne Paris. Et évidemment, on sent là une sorte de, je dirais, de fébrilité extrême, hein, une sorte de dévotion presque filiale à l'égard de la mère patrie enfin retrouvée. Hein, c'est véritablement la première génération de Québécois qui sera en France depuis la conquête. Alors, je vous lis un extrait. Vous allez tout de suite voir à la fois le ton, mais aussi, je dirais, le style de Taché dans cette lettre qui vous est reproduite à l'écran. « Monsieur le secrétaire, j'éprouve le plus grand embarras à commencer ces correspondances où je dois vous parler de Paris. Vous concevez qu'il n'y a là que l'embarras du choix, néanmoins, car les sujets ne manquent pas. Mais Paris a une physionomie tellement à part, diffère tellement des autres villes, que vous ne pouvez en donner les caractères distinctifs que dans une suite de tableaux. » De fait, hein, la série de lettres qui vont suivre seront en quelque sorte cette suite de tableaux qui vise à rendre compte de Paris sur tous les plans, sur le plan, entre autres, sociologique. C'est très intéressant. Il arrive à rendre compte de qui habite où, finalement, dans quel arrondissement est-ce qu'on trouve les étudiants, dans quel autre quartier de Paris est-ce qu'on trouve les nobles, les bourgeois, les gens de la finance, etc., etc. Et je crois que c'est vraiment un portrait assez intéressant du Paris de 1855. Cela dit, comme le temps nous manque, je passe tout de suite au point suivant. Les trois légendes de mon pays. Alors, les trois légendes de mon pays ont été publiées pour la première fois dans la revue Soirée canadienne en 1861. Et tout naturellement, je pense qu'on a été jusqu'à maintenant amené à penser qu'au fond, ça devait être des textes écrits à peu près à la même époque qu'ils ont été publiés. Alors, je pense que, mais je n'ai pas le temps de faire la démonstration dans le détail ici, qu'en fait, ce sont des textes vraisemblablement écrits à l'époque de l'Institut littéraire de Rimouski, que Taché a dû garder par devers lui pendant un certain nombre de mois et d'années, faute d'avoir, en quelque sorte, un lieu où les publier. Hein. Je pense que la publication en feuilleton était difficilement envisageable, étant donné que ce n'était pas à proprement parler un roman, mais évidemment une série de contes et de légendes, et c'est vraiment avec les soirées canadiennes qu'on va commencer à publier en série des contes et légendes. Hein. Alors, je veux juste simplement insister sur le fait que l'abbé Casgrain lui-même, dans la courte notice qu'il consacre à Taché, insiste beaucoup sur, je dirais, l'importance cruciale du séjour rimousquois dans la carrière de Taché. Et je vous ai donc reproduit un extrait de cette notice de l'abbé Casgrain que vous avez à l'écran. « À Rimouski, sa réputation d'homme éminent l'avait devancé. Il eut la confiance et l'amitié de tous. Il fut la lumière et l'honneur de son comté. Sa pratique de médecin qu'il entraînait partout sur cette côte, donc aussi bien sur la côte sud que sur la côte nord. Hein. » Vous vous souvenez que dans « Forestier voyageur les aventures du père Michel, les aventures se déroulent aussi bien d'un côté du fleuve que de l'autre, hein, sur les deux rives. Donc, sa pratique de médecin qu'il entraînait partout sur cette côte favorisait ses goûts d'aventure. Il visita les deux rives du fleuve, vécut de la vie des bois, séjourna dans les chantiers, observa les mœurs de nos voyageurs, s'assit dans le wigwam des Micmacs et des Montagnais, étudia tout, prit note de tout. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais vous connaissez les trois légendes de mon pays. Vous savez que l'action, par exemple, de la toute première légende se situe sur une petite île qui s'appelle l'île au massacre, qui se trouve au large du Bic et qui raconte justement le massacre d'un certain nombre de Malécites par leurs ennemis iroquois. Hein. Alors, la source, évidemment, attachée, c'est les relations de quartier derrière tout cela. Mais, vraisemblablement, Taché tient évidemment un certain nombre de ces récits-là des Amérindiens qu'il a fréquentés à l'époque où il était à Rimouski. Hein. Si bien qu'il est difficile d'envisager que tout ça ait été écrit a posteriori. Évidemment, on ne peut pas du tout exclure que Taché ait réécrit, retravaillé ses textes en vue de la publication. Mais je crois que, je dirais, le noyau dur, la genèse même de ces trois légendes de mon pays remonte au séjour rimousquois, puisque l'ensemble de la topographie de ces trois légendes se situe dans le fameux comté de Rimouski, qui était évidemment immense au 19e siècle et qui, en réalité, embrassait pratiquement tout ce qui est aujourd'hui le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Donc, un territoire absolument démesuré. Et donc, la première légende a pour cadre l'île au massacre au large du Bic. Le deuxième récit a pour cadre, attendez un peu là que je me retrouve dans mes notes, a pour cadre une autre région là, qui est située un petit peu plus loin dans le coin de Matane. Et puis le troisième et dernier ici a pour cadre un terroir, disons, qui se situe à la limite de ce qui est aujourd'hui le Nouveau-Brunswick. Mais tout ça, évidemment, était compris au 19e siècle dans le comté de Rimouski. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, dans ces textes-là, c'est de voir à quel point Taché se distingue de la plupart de ses contemporains dans la perception qu'il a des cultures amérindiennes. Alors que beaucoup d'auteurs de l'époque, évidemment, ont des préjugés très forts contre les Amérindiens, visiblement, Taché, lui, est fasciné par ces cultures. Et même si les trois légendes de mon pays ont pour projet de montrer à quel point, finalement, l'évangélisation des Amérindiens a été un bienfait, il ne peut pas s'empêcher, malgré tout, de déplorer le lent et inexorable processus d'acculturation. Il dit très clairement dans ces trois légendes qu'il y a quand même quelque chose qui a été perdu, et c'est bien regrettable parce que, évidemment, les cultures amérindiennes, avant l'arrivée des Amérindiens, avaient quelque chose d'absolument héroïque, de sans équivalent. Et bien sûr, bon, Taché, qui est un catholique fervent, estime que c'est une bonne chose qu'ils se soient convertis au catholicisme puisque ça va leur permettre d'accéder à la vie éternelle. Mais il reste qu'ils ont peut-être quand même un peu perdu au change malgré tout. Et je crois que dans les auteurs du 19e siècle, c'est peut-être l'un des rares à faire ce type de constat-là extrêmement nuancé. Et je vais juste vous donner un autre extrait de ces trois légendes. C'est la conclusion de la première légende de mon pays qui raconte, comme je le disais, donc, le massacre des Micmacs et des Malécites par les Iroquois. Et on sent très bien, je dirais, dans la posture du narrateur, cette espèce d'empathie naturelle qu'il a à l'égard des Amérindiens et qui ne se retrouve pas ailleurs. L'abbé Casgrain a mis en scène un certain nombre d'Amérindiens, en général, pour les dépeindre comme des scalpeurs impénitents. Alors que là, vous voyez, c'est tout à fait autre chose. Tous les Micmacs, sans distinction d'âge et de sexe, périssent étouffés dans la caverne ou massacrés par les Iroquois. Leurs cadavres mutilés, privés de chevelure, restèrent là pour être la pâture des renards et des corbeaux. Sur l'étroite rive et dans le creux de ce rocher qui reçut de cet événement le nom d'îlet au massacre qu'il conserve encore aujourd'hui. Alors évidemment, on sent déjà une empathie là, mais qui va se manifester encore plus clairement dans la phrase finale de conclusion que je vous lis. Quelle belle race cependant que celle des nations sauvages du Canada. Quelle sève et quel caractère au milieu de cette sauvagerie. Race fière s'il en fut jamais, qui aujourd'hui devant l'action énervante du commerce, comme autrefois devant le casse-tête ennemi, savent mourir sans se rendre. Et évidemment, bon, on sent qu'il y a bien sûr cet intérêt pour les cultures amérindiennes, mais il y a aussi très probablement une projection en quelque sorte du destin national des Québécois dans ces nations sauvages qui ont été forcées à s'acculturer et à se convertir au catholicisme. On pourrait faire à peu près, je dirais, le même type d'analyse de Forestier Voyageur, qui est au fond le recueil suivant de contes et légendes publié par Taché pour la première fois en 1863 dans les soirées canadiennes. On a vu tout à l'heure que l'abbé Casgrain nous présentait donc le séjour rimouskois de Taché comme étant fortement marqué, entre autres, par la vie des chantiers, donc la vie des camps de bûcherons, les fameux forestiers. Or, effectivement, toute l'action de la première partie de Forestiers Voyageurs prend pour cadre ce qui est aujourd'hui Saint-Narcisse de Rimouski, où il y a un très beau parc qui s'appelle les Portes de l'Enfer. Mais c'était là, précisément, qu'on abattait les arbres au 19e siècle, en tirant parti de la force hydraulique de la rivière Rimouski, qui pouvait amener ensuite les billes de bois vers le fleuve Saint-Laurent. Et vous savez aussi que dans Forestiers Voyageurs, le narrateur, c'est un personnage de médecin. Et on sent très bien que dans le récit des aventures du Père Michel, ce narrateur médecin relate aussi un certain nombre d'anecdotes qui semblent avoir pour substrat un certain nombre d'éléments, je dirais, biographiques dans la vie même de Taché, entre autres une célèbre pêche au flétan au beau milieu de juillet entre l'île Saint-Barnabé et les îles du Bic, alors que la mer, évidemment, est d'un calme plat, si bien qu'on est un peu victime d'illusions optiques, et c'est ce qui est relaté dans le passage que vous avez à l'écran. Il y avait des instants où tout disparaissait, alors nous demeurions comme suspendus dans un milieu indéfinissable, espèce de vide apparent à travers lequel nulle forme à nous étrangères ne se laissait voir. C'est comme une vision de rien, disait un de mes compagnons de pêche dans son langage pittoresque. Bien. Alors, je ne m'attarde pas davantage là-dessus. Je passe donc au dernier texte de Taché que l'on peut rattacher à l'Institut littéraire de Rimouski. Il s'agit de L'île Saint-Barnabé, qui sera publiée dans les Soirées canadiennes toujours pour la première fois en 1865. En fait, ce numéro des Soirées canadiennes est daté de 1865, mais va paraître en réalité en 1867, puisque déjà à l'époque, on avait beaucoup de mal dans la régularité des publications périodiques. C'est donc pas un phénomène nouveau. Vous savez qu'un certain nombre de revues universitaires savantes qui parfois paraissent avec un décalage de quelques mois, bien donc les Soirées canadiennes avaient déjà un peu montré la voie dans les années 1860. Dans ce texte-là, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on nous raconte la vie de l'ermite, Toussaint-Cartier, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais surtout, on dispose aux archives de Lucard d'un manuscrit autographe de Taché qui est reproduit ici à l'écran et qui a été conservé grâce à un personnage assez fascinant de Rimouski au début du XXe siècle, qui était un érudit, et qui s'appelait Joseph Gauvreau. Si vous êtes déjà allé à Rimouski, vous savez que près du chemin de fer, à l'angle de la rue de la Cathédrale et de la rue de l'Évêché, il y a une superbe maison de style néo-Queen Anne, qui est probablement la plus belle maison de Rimouski, qui a été préservée par l'incendie de 1950. Or, cette maison de style néo-Queen Anne, c'était la maison qui appartenait à Joseph Gauvreau, qui était médecin de profession, mais qui est aussi un érudit, et qui a collectionné pendant toute sa vie un certain nombre de reliques presque sacrées à propos de Taché, et qui a réussi, entre autres, à mettre la main sur ce manuscrit autographe que son fils lui a donné et envoyé d'Ottawa. Ce qui est intéressant, c'est que Gauvreau, pour la petite histoire, c'est le fils d'un des membres fondateurs de l'Institut littéraire de Rimouski. Et dans les archives donc conservées à Lucard, on a non seulement ce manuscrit autographe, mais on a également une photographie du début du XXe siècle en noir et blanc. C'est ce qui est reproduit à gauche. Malheureusement, la qualité de la reproduction est un peu, je dirais, problématique. Mais vous reconnaissez là une maison hein, de type traditionnel canadien. Et vous avez une légende en dessous qui a été inscrite par Joseph Gauvreau lui-même et qui dit la chose suivante. « Maison du docteur Joseph-Charles Taché à Rimouski, où il écrivit l'ermite de l'île Saint-Barnabé. » Alors, l'ermite de l'île Saint-Barnabé, c'est très précisément ce texte de l'île Saint-Barnabé qui paraîtra seulement en 1865 dans les Soirées canadiennes. Et je crois que là, on a une preuve tangible et réfutable du fait que l'ensemble, au fond, des textes publiés dans les Soirées canadiennes, ce sont en quelque sorte des fonds de tiroir, là, si on peut utiliser le terme sans nuance péjorative, c'est-à-dire des textes qui ont été rédigés dans les années 1840-1850, à l'époque où Taché est à Rimouski, et qu'il va bien sûr remanier pour fin de publication et les publier ensuite dans les Soirées canadiennes, alors qu'il a enfin un lieu de diffusion qu'il contrôle et où il peut enfin publier ce type de texte-là. Évidemment, on pourrait dire, j'y reviens là, mais je ne vais pas m'attarder, il aurait pu publier ça dans les journaux, puisqu'après tout, la plupart des œuvres littéraires sont d'abord diffusées dans les journaux, mais je crois que ce sont quand même des textes d'une nature particulière et que le lecteur de journal du 19e siècle ne s'attendait pas à trouver des contes et légendes, mais plutôt des romans à la manière de Balzac ou à la manière des romantiques français. Si bien qu'une publication en feuilleton était difficilement envisageable dans un cadre comme celui-là. Bien, alors, j'en viens maintenant à ma conclusion. Alors, il reste un texte dont je n'ai pas parlé, qui est écrit par un certain abbé Charles Gay, qui paraîtra en 1873 et en 1874 en deux volumes. Il s'agit de la Chronique de Rimouski. C'est le premier ouvrage apporté sur l'histoire de Rimouski et l'ensemble de la paroisse. Or, ce qui est intéressant, c'est que, a priori, on se dit, mais voilà, un texte qui n'a absolument rien à voir, qui est largement postérieur à l'Institut. Sauf que, dans la préface, l'abbé Charles Gay explique qu'en réalité, il n'est pas tant l'auteur de cette chronique de Rimouski que le simple compilateur. Hein. Et il s'est contenté de réécrire, de mettre en forme un certain nombre de textes qui ont été écrits par des auteurs, ses prédécesseurs, qui ont vécu à Rimouski, précisément à l'époque de l'Institut littéraire de Rimouski. Et même si Charles Gay, dans ce texte-là, n'évoque jamais le terme d'Institut littéraire de Rimouski, peut-être même à la limite ne connaissait-il pas l'existence de cet institut qui avait disparu à la fin des années 1860, toujours est-il qu'on voit apparaître là un certain nombre de figures qui sont très précisément les figures d'écrivains de l'Institut littéraire de Rimouski que nous avons vu il y a un instant. Alors je voudrais, si vous me le permettez, conclure avec la lecture de ce long extrait, long mais extrêmement éclairant. Un écrivain de mérite, M. Joseph-Charles Taché, pendant son séjour dans la paroisse, nous a légué de belles pages sur l'histoire de l'ermite de l'île Saint-Barnabé, dont la lecture est aussi attrayante qu'agréable. Et vous voyez que Charles Gay confirme bel et bien que hein, le texte sur l'île Saint-Barnabé a été écrit à l'époque où Taché est à Rimouski. Je me suis fait un devoir de rapporter textuellement dans le cours de cet ouvrage cette intéressante histoire de l'ermite et quelques autres passages concernant le père Labrosse et M. Le Courtois, dus aussi à la plume finement taillée de M. Joseph-Charles Taché. Monsieur l'abbé Cyprien Tanguay avait eu l'intention de publier un travail sur la paroisse de Rimouski. Mais ayant été appelé à la composition de son dictionnaire généalogique, surnommé en France le Livre d'or du Canada, il ne put mettre la dernière main à son œuvre. Ayant été curé 9 ans de cette paroisse, il a recueilli des notes intéressantes qui nous ont été d'un grand secours. Et de fait, hein, si vous regardez attentivement la chronique de Rimouski, pour l'essentiel, vous avez des données de type un peu généalogique, compilation du nombre de naissances, du nombre de mariages, du nombre de décès. Et donc, on est déjà, je dirais, dans une pratique qui annonce celle du dictionnaire généalogique à venir. Paragraphe final, un autre écrivain de mérite et bien connu pour ses talents littéraires, M. François Magloire de Rome, se propose de donner au public une histoire de Rimouski, mais ses nombreuses activités l'en ont toujours empêché jusqu'à ce jour. Il est à espérer que M. de Rome verra ses occupations diminuer et pourra se livrer bientôt à ses goûts littéraires. Alors, ces quelques exemples, évidemment, j'ai été obligé d'aller un peu rapidement, je pense nous permettre quand même d'esquisser à grands traits hein, la figure de ce qu'a été l'Institut littéraire de Rimouski. Bien sûr, les recherches toujours en cours, je l'espère, nous apprendront un certain nombre de détails beaucoup plus circonstanciés et nous permettront peut-être de découvrir des archives qui nous ont échappé jusqu'à ce jour. Mais je crois là qu'on voit quand même que l'Institut littéraire de Rimouski, contrairement à ce que les quelques auteurs qui en ont parlé ont dit, ça n'était pas simplement une sorte de feu de paille qui a duré le temps d'un don initial de 500 volumes. Il y a probablement là au moins une bonne douzaine, voire une bonne quinzaine d'années de vie littéraire très active dans ce qui n'est, après tout, qu'une fort modeste paroisse du 19e siècle dans le Québec rural. Je vous remercie. Et sans plus tarder, je cède la parole à M. Éric Bouchard, qui est agent de recherche, donc à la direction de la recherche et de l'édition, ici même à BNQ.
Alors, je ne saurais espérer une meilleure introduction pour vous parler d'un fonds patrimonial. En fait, de patrimoine documentaire, étant donné la démonstration, le professeur La Charité nous a fait la démonstration un peu plus claire que l'étude d'un fonds documentaire pouvait servir à l'avancement de la recherche et de la connaissance. Donc, ça. Avant de vous parler un petit peu plus de l'IMAC, je voulais vous dire en guise d'introduction que donc BANQ s'intéresse à l'avenir du patrimoine documentaire des communautés religieuses. Deux projets concernant ce patrimoine sont actuellement en cours de réalisation. Donc, un inventaire des imprimés anciens, auquel participe le professeur La Charité, et un état général des collections qui m'intéresse plus personnellement. Donc, l'inventaire des imprimés anciens du Québec est dirigé par le professeur Marc-André Bernier, professeur titulaire de la chaire de recherche du Canada en rhétorique, basée à l'UQTR. Et il vise la création d'un catalogue collectif à terme, mais c'est un projet ambitieux, donc, d'un catalogue collectif de tous les imprimés anciens, donc datant d'avant 1800, détenus par les institutions québécoises. Réalisé grâce à l'action de groupes universitaires répartis sur tout le territoire, et le professeur, donc La Charité, est responsable de l'un d'entre eux, à l'UQAR. BANQ collabore aussi au projet en assurant sa validité scientifique, donc la validité scientifique des notices catalogaphiques, et qui sont établis par les équipes de recherche, de même qu'en facilitant la cueillette des données. De quelle façon? Eh bien, en établissant un état des collections des communautés religieuses, BANQ est à même de déterminer déjà quels sont les fonds les plus susceptibles de contenir ou d'intéresser le projet d'inventaire des manuels des imprimés anciens du Québec. Donc, le projet de BANQ d'état des collections des communautés religieuses du Québec vise à faire à connaître donc la nature et l'ampleur du patrimoine documentaire encore conservé par les communautés. Il sert à mieux saisir les attentes et les besoins des communautés religieuses en ce qui a trait à la préservation de leur patrimoine documentaire. Et compte tenu de l'attrition des effectifs des communautés, ces attentes et ces besoins sont certainement importants. Il sert aussi à tisser des liens privilégiés avec les divers intervenants œuvrant dans le domaine du patrimoine religieux. On sait, le patrimoine religieux, les intervenants se sont beaucoup intéressés à la préservation, la conservation, la restauration du patrimoine bâti. On s'intéresse à l'heure actuelle beaucoup au patrimoine immatériel et on aimerait aussi que nous puissions, que l'ensemble de la société puisse s'inquiéter du patrimoine documentaire, donc des imprimés et des archives. De quel patrimoine s'agit-il? Dans le cas de l'état des collections des communautés religieuses, ce ne sont que les imprimés. Donc, c'est les communautés religieuses ou corporations religieuses conservent ou conservaient jusqu'à tout récemment d'importants corpus documentaires. Ces corpus furent constitués à l'usage des institutions grâce auxquelles les communautés religieuses ont pu remplir leurs différentes missions. Des collections témoignent d'un univers disparu. Bon. On se souvient donc que le système avant la Révolution tranquille, le système d'éducation était particulièrement, s'était développé autrement ou a été profondément, disons, transformé et a été profondément transformé lors de la Révolution tranquille. Autrefois, donc, écoles secondaires et collèges étaient le plus souvent sous la direction des collèges des communautés religieuses. Il pouvait y avoir des séminaires, des collèges, des externats classiques, des collèges classiques pour filles, de façon plus tardive, à partir des années 30 ou 20, même pour ce qui est du premier, le premier collège qui s'établit en 1925 grâce à l'action de sœur, c'était Anne-Marie, sœur Sainte-Anne-Marie. Les collèges commerciaux, les couvents. Il y avait aussi des écoles spécialisées, donc les écoles normales qui formaient nos instituteurs, des écoles de musique. Plus spécialisés et plus rares, mais restent néanmoins que dans les grands centres, ils étaient toutes présentes. À Montréal, il y en avait trois d'importance, dont l'une, Vincent d'Indy, demeure toujours. Des écoles ménagères, qu'on appelait aussi instituts familiaux, des écoles d'agriculture, des orphelinats agricoles, des écoles d'infirmières. Les écoles ménagères, pour les écoles spécialisées, il faut toujours se rendre compte qu'il y avait une part de formation générale qui était donnée, et donc ce n'était pas simplement un enseignement, la part, il y avait une sorte d'enseignement général qui était encore donné. Collège commercial, donc ici je vous offre quelques images, donc c'est la bibliothèque des étudiants du Mont-Saint-Louis. Ici, vous avez le séminaire de Saint-Hyacinthe avant l'incendie qui a fait disparaître le corps central avec la coupole du bâtiment. Ce séminaire est quand même intéressant puisque la bibliothèque s'est constituée sous une corporation indépendante. Donc, la bibliothèque du séminaire de Saint-Hyacinthe a une existence légale et sous la direction de M. Auger, elle assure quand même une préservation, elle collecte une bonne partie du patrimoine de la région de Saint-Hyacinthe et même plus largement de la Rive-Sud. Je vous ai mis ici un collège classique, celui de Jonquière, pour bien avoir en tête qu'un collège classique, ce n'est pas que de vieilles institutions. Il peut y avoir également des institutions qui se renouvelaient jusque dans les années 60. Et donc, vous avez ici à Jonquière le collège classique qui a été fondé probablement dans les années 30-40, qui a été grandement modifié et agrandi, si on veut, dans les années 60. Les collections documentaires allaient de pair, c'est-à-dire donc il y avait toujours les collections qui sont, somme toute, constituées à la fin des années 60, sont des collections qui ne sont pas que des livres anciens, mais bien évidemment qui sont à la page, si l'on veut. La Fédération des collèges classiques a beaucoup fait, je crois, pour le développement de certaines, pour du métier de bibliothécaire. Ici, vous avez un exemple de collège classique pour filles à Sherbrooke. On pourrait dire ici que les collèges classiques pour on y reviendra. Les plus grands, les plus importants, donc, étaient à Montréal et à Québec. Il y avait à Nicolet également, les Sœurs de l'Assomption, les Ursulines de Trois-Rivières. Bref, il y avait quand même, à la fin des années 60, passablement, peut-être une vingtaine d'établissements. Ici, je vous ai mis un couvent, un très beau couvent, qui se trouve à être, pour ceux qui connaissent le nord de la ville de Montréal, donc, qui se trouve avec l'école Sophie Barra. Mais en 1855, c'est les Dames du Sacré-Cœur, donc, qui ont ouvert un premier couvent, qui pouvait peut-être s'apparenter au départ à un certain collège classique, qui a dû limiter son enseignement assez rapidement du simple fait que ça ne plaisait pas nécessairement à l'épiscopat de voir si tôt des jeunes filles recevoir un enseignement aussi poussé. Donc, c'est tout le combat, si on veut, des communautés religieuses enseignantes du début du 20e siècle pour ce qui est de pouvoir offrir aux jeunes filles un enseignement comparable à celui reçu dans les collèges classiques de garçons. Et je crois que la première fois qu'une jeune fille, d'ailleurs, a concouru avec des garçons pour ce qui est de recevoir son diplôme, elle a été reçue la première. Donc, et on a dû, je crois, si je me souviens bien, ça a choqué beaucoup de gens et même elle a dû donc remettre ou être considérée comme deuxième puisque ça ne pouvait pas se faire. Bon, ça ne pouvait pas être concevable. Bref, ici, une école normale, sans doute une des plus grandes pour ce qui est des filles, c'est l'Institut Marguerite Bourgeois de la Congrégation Notre-Dame, qui logeait également l'école normale de musique, donc l'école spécialisée de musique de la Congrégation, et aujourd'hui qui abrite le collège Marianopolis, donc le cégep anglophone de la Congrégation Notre-Dame. Ici, on voit une des rares images d'une bibliothèque, c'est celle donc de cette école normale, de cet institut pédagogique qui se trouve à Westmount. Donc, on voit que c'est assez considérable. J'ai vu, disons, la collection a été dispersée il y a peu de temps seulement, là, mais pour ce qui est de cet aménagement, il y a bien longtemps là, que ça ne se présentait plus de cette façon-là. École de musique. Donc, je vous ai mis non pas une véritable école de musique, mais tout de même, il faut comprendre que dans les couvents, vous aviez studio d'art et salle de musique. Celle-là, c'est la salle de musique dans Saint-Henri, donc au couvent des Sœurs de Sainte-Anne. Ce qui est intéressant pour noter qu'il y avait quand même une certaine volonté de démocratisation d'un certain savoir ou de certaines connaissances. Le Collège classique pour filles des Sœurs de Sainte-Anne, en 1932, ouvrira dans ce couvent, donc en quartier ouvrier, dans Saint-Henri. Ici, une école ménagère disparue, donc le couvent des Ursulines à Roberval. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la formation donnée était aussi d'une façon générale, c'est-à-dire certains cours de français, de mathématiques, bref, on ne se limitait pas à la seule puériculture, cuisine ou autres travaux ménagers. Ici, une école normale, donc plutôt des années 40, à Amos, qui était à la fois une école normale, c'est ce qui était inscrit sur le fronton principal, une école ménagère, et vous aviez un pensionnat. Donc, architecture peut-être moins intéressante, mais néanmoins donc impressionnante. L'école d'agriculture, donc j'aurais pu choisir Oka, et ça aurait peut-être été plus approprié, puisque là, relié aux trappistes, reste néanmoins que l'école d'agriculture de l'Apocatière, de Saint-Anne-de-l'Apocatière, était sous la direction d'une corporation de prêtres. Il faut imaginer que l'ensemble est assez impressionnant, puisque quand on est à droite, là, si on veut, c'est le collège classique lui-même qui est là. Et là, je dois avouer que cette collection-là a été perdue, mais il reste néanmoins que dans le musée François Pilote, qui se trouve pas très loin, on a pu préserver à tout le moins les thèses qui avaient été produites dans cette école d'agriculture. Corpus lié aux communautés religieuses ou congrégations religieuses, la suite. Donc, il n'y avait pas seulement que des œuvres, si on veut, associées à l'action des communautés religieuses, mais aussi des bibliothèques de communauté. Donc, des bibliothèques à l'usage des membres de la maison mère, et parfois, vous pouviez avoir plusieurs centaines de personnes. Donc, dans les monastères, ce sont souvent des bibliothèques beaucoup plus, plus importantes, quoique avec un effectif plus restreint. Le Scholastica Novicia, donc ce qui servait à la formation des religieux, des studios d'art. Le plus beau studio d'art se trouve à la Chine. Je ne sais pas si ça fait peut-être quelques années, enfin 2 ans que je ne suis pas allé, mais vous aviez une belle collection particulière, donc avec reproduction de peinture. Souvent, on reproduisait, mais aussi sur les peintres, sur la peinture elle-même, donc des belles des monographies ou des synthèses historiques. Musée et archives, donc éditions souvent scolaires, écrits des membres, les livres plus anciens souvent se retrouvent là. Donc ici, vous avez un exemple de maison mère disparue, celle-là. C'était la congrégation toujours à la place, ou à peu près au même endroit que l'école normale Marguerite Bourgeois que je vous ai montré tout à l'heure, qui a brûlé en 1895. C'était assez ambitieux comme plan. Et ce n'était que, disons, la moitié. Vous savez, l'aile qui se trouve donc à gauche, à droite, devait être reproduite. Et ça a pris, je crois, près de, je vous dirais, 20 ans ou même 30 ans à la congrégation pour rebâtir une maison mère, disons, à la hauteur de ses ambitions, et c'est le collège d'Assun aujourd'hui. Donc, monastère, ici une vue de la bibliothèque, donc à Saint-Benoît-du-Lac. À Saint-Benoît-du-Lac, je dois vous avouer que les bibliothèques de monastères sont plus difficilement accessibles. Reste néanmoins que dans un tout petit prieuré qui se trouve à Saint-Constant, où j'habite, et tout récent, donc qui a été construit tout récemment, on retrouve encore une quarantaine de livres anciens, Souvent, les monastères, quand ils sont fondés, sont dotés par leur monastère mère, si on veut, ou l'institution mère qui se trouve en Europe, de certains fonds. Donc, dans le cas du petit prieuré de Prémontré de Saint-Constant, vous avez donc les livres proviennent de l'abbaye de Tongerlo en Belgique. Ici, vous avez le monastère Adolbo Mistassini. Lui aussi a été, on a abandonné ce grand bâtiment pour quelque chose de plus pratique et de plus petit. Reste néanmoins que la collection de livres anciens, dont il ne reste rien malheureusement, puisqu'elle a été dispersée, nous montre en tout cas que on portait un certain idéal de culture aussi loin qu'en zone de colonisation, en pleine zone de colonisation. C'était assez ambitieux et un peu. Ici, un noviciat, le Mont de la Salle à Laval des Rapides. Vous avez donc, c'était des grands établissements pour ce qui est de. Étant donné que les effectifs ont pu monter à plusieurs centaines par communauté, on comprend bien qu'il y avait un noviciat à Montréal et un noviciat dans le cas des Frères des Écoles chrétiennes, un noviciat également à Québec. Corpus lié aux communautés ou congrégations religieuses, suite. Donc, il y a des collections particulières également qui ont pu être établies ou rassemblées au gré des intérêts des membres des communautés. On pense notamment aux discothèques, ce qui n'est pas, qui ne nous vient pas à l'idée, mais évidemment, les écoles de musique ont amené donc le rassemblement de documentation particulière, ou de documents particuliers dans le cas les discothèques. Il a pu être retrouvé chez les sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, une belle discothèque sur la production, de la musique religieuse ou le chant religieux, donc québécois, même des années 60 et 70. Il y a des documentations, de la documentation ou des documents liés aux activités parascolaires, comme le théâtre. Vous savez, donc, pour jouer au théâtre, vous aviez besoin de petits, des pièces en tant que telles, donc de l'impression. Et là aussi, on retrouve une grande partie tant canadien ou québécois qu'européen. Autre collection reliée, donc, aux communautés religieuses, les grands séminaires, les sanctuaires monastères et les bibliothèques paroissiales. Donc, les grands séminaires, ça, c'est peut-être les collections les mieux préservées, surtout à Québec, où en grande partie, ça a été versé au Centre de documentation de l'Amérique française, je crois, si je ne me trompe pas, donc qui est lié au Musée de la civilisation, et le grand séminaire de Montréal. Donc, ici, on voit que la chapelle, le centre d'archives de BANQ est logé dans la chapelle du grand séminaire à Québec. Non pas celui du Vieux-Québec, mais celui qui avait été construit dans les années 50. Bibliothèque paroissiale, il y a très peu d'images disponibles des bibliothèques paroissiales parce qu'effectivement, ça n'a pas été si populaire, mais reste que vous avez ici l'image d'une bibliothèque, celle tenue par les Jésuites à l'Immaculée Conception, donc à la paroisse de l'Immaculée Conception. Il y a une image ici peut-être plus intéressante où on revoit ici Coin Rachel qui est de Bordeaux, donc qui est là. Donc c'était la grande salle des Ligues du Sacré-Cœur qui se trouvait derrière. Le Scholastica, donc des Jésuites, dont la collection, celle-là, est préservée puisqu'elle a été transférée à la chapelle de Brébeuf. Et on reconnaît donc l'église de l'Immaculée Conception avec son presbytère à l'arrière. Donc, ça a bien changé depuis. C'était un petit peu plus champêtre à l'époque. Constat. Donc, les collections des communautés religieuses ont pu atteindre une ampleur considérable. En fait, on peut dire pour une collection, pour une communauté de grandeur moyenne, disons de 500 membres, on pouvait avoir 50 000 facilement volumes. Pour les communautés, disons, qui se destinaient davantage ou qui se consacraient davantage à la chose ou enfin au domaine intellectuel, comme les dominicains, par exemple, ou les jésuites ou les franciscains, ben là, c'est plutôt de l'ordre du 100 000 volumes. Elles étaient donc pour la plupart de nature encyclopédique. Il ne faut pas s'imaginer non plus, hormis dans le fait des collections des monastères, que ces collections-là étaient toutes remplies de bondieuseries ou de à teneur uniquement religieuse. En fait, le religieux tenait probablement 20% de l'ensemble. Elles refermaient souvent des raretés du fait qu'elles ne semblaient pas subir des lagages importants jusqu'aux années 60. Des dons de certains religieux bibliophiles. On retrouve, par exemple, au séminaire de Sherbrooke, souvent des livres anciens, mais avec collé sur la page de garde, si l'on veut, la petite notice du catalogue dans lequel ils ont été choisis. Et des liens conservés avec l'Europe. Il faut s'imaginer, par exemple, que pour les eudistes, qui ont dû établir, par exemple, le séminaire d'Halifax au début du 19e siècle. Ils ont importé pour l'essentiel leurs livres de France. Et ces livres-là ont été ont transité, quand ils ont quitté le séminaire, vers Charlebourg. Enfin, aujourd'hui, cette collection-là se trouve à Charlebourg. Que reste-t-il? Un grand nombre de collections ont totalement disparu. Celles des collèges classiques pour filles, des écoles spécialisées, des bibliothèques paroissiales. J'ai retrouvé à Brébeuf, lors d'un délagage, un petit guide de voyage pour la Terre Sainte, mais qui portait tout de même l'ex-libris de la bibliothèque paroissiale l'Immaculée Conception, les Novicia Scholastica, hormis évidemment le Scholastica des Jésuites. Dans bien nombre de cas, suite à des campagnes d'élagage, il ne reste que des fragments de collection, le plus souvent dans les domaines de l'histoire et de la littérature, notamment dans les collèges ou externats classiques devenus cégep, dans les collèges ou externats classiques devenus écoles secondaires. Bon, évidemment, pour les écoles secondaires, on n'avait plus usage. Pour les cégeps, et l'élagage continue, généralement. Que reste-t-il, toujours? En revanche, les collections associées aux services d'archives ou aux musées se sont souvent enrichies. On y retrouve les écrits ou éditions de la communauté, le plus souvent les livres anciens qui sont conservés, parfois quelques collections particulières. Je pense au Bon Pasteur de Québec, par exemple, où c'est une collection de cartes postales, donc qui a été constituée par un membre de la communauté. Donc, il pourrait y avoir toutes sortes d'intérêts ou de goûts, finalement, qui nous amèneraient à conserver quelques collections. Une des sœurs, toujours là, avait consacré une bonne partie de la fin de sa carrière à rassembler tous les manuels scolaires qui avaient été utilisés par le Bon Pasteur de Québec. Et à un moment donné, par manque de place, la communauté a décidé que ça ne faisait plus partie de son patrimoine. Et heureusement, BANQ a pu, récupérer la collection en question. Que reste-t-il? Il reste que quelques collections seulement nous sont revenues dans une quasi-intégralité, soit celle du séminaire de Québec, donc comme je le disais tout à l'heure, du séminaire de Nicolet, du séminaire de Saint-Hyacinthe, du séminaire de Sainte-Thérèse, du petit séminaire de Sherbrooke, et on pourrait toujours adjoindre la collection Saint-Sulpice de BANQ. Reste néanmoins que la collection Saint-Sulpice de BNQ était d'usage plutôt à la fois pour la population et l'Université Laval de Montréal, donc elle est peut-être, une catégorie à part. Quelques constats, nous assistons à l'ultime phase de rationalisation des espaces chez les communautés religieuses. Cela les oblige à céder rapidement la majeure partie de leur collection. Les institutions civiles sont peu enclines à recevoir un tel patrimoine, et donc la dispersion est le plus souvent inévitable. Un exemple, les sœurs donc du Bon Pasteur de Québec, dont j'ai parlé tout à l'heure, et du Saguenay. Ça, c'est leur école normale à Chicoutimi. Donc, ils ont gardé jusqu'à tout récemment l'essentiel de leur collection. Pour la Maison Mère à Québec, par exemple, il y avait une collection d'à peu près 50 000 volumes, avec dans chacune des maisons, si vous voulez, là, c'est vraiment des ensembles très impressionnants, plusieurs petites bibliothèques rassemblées par un catalogue informatisé commun. Et il y avait des prêts entre maisons, un prêt entre bibliothèques, si on veut, mais intercommunautés. Et compte tenu du fait du manque d'espace, ils ont décidé de réduire à 5 000, donc de disperser l'essentiel de la collection. À Chicoutimi, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que la collection de l'École normale a été vendue, si on veut, offerte à la population. D'abord, elle avait été offerte aux bibliothèques municipales, mais malheureusement, les bibliothèques municipales n'ont pas les ressources ni l'intérêt, de toute évidence, pour recueillir de telles collections. En conclusion, du fait des changements survenus lors de la Révolution tranquille, la préservation du patrimoine documentaire des communautés religieuses s'avère hasardeuse. Seuls des éléments précis de ce patrimoine pour lesquels les communautés religieuses ou la société civile gardera ou manifestera un intérêt pourront être conservés. Dans ce contexte, il faut grandement se réjouir de l'existence de projets tels que l'inventaire des imprimés anciens du Québec. Et je voulais avant de conclure, donc, pour finir, permettez-moi de citer le philosophe Hans-Georg Gadamer. Donc, en hommage à ceux qui, tels le professeur Bernier et la Charité, travaillent à mieux faire connaître la richesse du patrimoine documentaire des communautés religieuses, en hommage aussi à ces religieuses et religieux qui gardent jalousement leurs livres, parfois envers et contre tous, avec l'intime conviction que l'humanisme dont ils témoignent pourrait encore servir à la société, en hommage à mes supérieurs, à Mme Sophie Montreuil, directrice de la recherche et de l'édition, qui a su me soutenir, à M. Claude Fournier, surtout directeur général de la conservation, qui, dès les débuts, m'a accordé sa confiance et sa protection, à tous ceux, enfin, qui reconnaissent que les racines du Canada français plongent profondément dans l'espace et le temps, ceux-là même qui considèrent que, loin de nous desservir, cet état de choses devrait être une source de légitime fierté, qu'il nous faudrait à tout prix entretenir et préserver. Donc, je veux lire ce petit texte. Même quand la vie est soumise à de violents bouleversements, en période révolutionnaire par exemple, on voit se préserver, sous le prétendu changement de toutes choses, une part insoupçonnée du passé qui s'unit au nouveau pour acquérir une validité nouvelle. En tout cas, la préservation n'est pas moins un acte de liberté que le bouleversement et l'innovation. Je vous remercie.
Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires, des remarques.
Oui. D'accord. Donc, au collège, qui est un petit peu plus bas. Oui, oui. Oui, c'est vrai que la comment dire, le collège, là aussi, je pense, ça a été vendu il n'y a pas si longtemps. Repartent à la maison. C'est bien. C'est vrai que j'ai été très bien reçu. Je vous avoue que c'est vrai que je pourrais en profiter pour témoigner, pour remercier tous ceux qui m'ont reçu. Souvent, j'ai été reçu comme un roi. Mais c'est vrai qu'à Chicoutimi, la dame, l'archiviste, elle s'appelait Bouchard, donc elle était toute heureuse de pouvoir...
Alors, ça s'intitule « Toussaint-Cartier ou l'ermite de l'île Saint-Barnabé ». Mais il est inédit. Il n'a jamais été publié. Alors, il est conservé dans un fonds d'archives.
Un projet.
Si Dieu me prête vie, normalement, ça devrait paraître un jour à la suite d'un livre sur la figure de l'ermite Toussaint-Cartier. C'était mon intention, parce que c'est probablement, même s'il s'agit d'une fiction, une des principales sources. Et visiblement, Louis-Édouard Bois, qui était un grand érudit, sa première intention était d'écrire une histoire de l'ermite. Mais comme il s'est heurté très rapidement à l'absence de sources, un peu à son corps défendant, et ça c'est très intéressant du point de vue des usages de la fiction au 19e siècle, il s'est mis à écrire un roman. Mais un roman, comment je dirais, ça se lit pas exactement comme un roman feuilleton romantique. Là, c'est un roman qui est grevé par une très lourde érudition, des références à n'en plus finir, notamment des renvois à l'histoire des différents évêques de Saint-Malo. Donc, il y a un chapitre entier où on nous énumère presque des origines à nos jours, tous les évêques de Saint-Malo. Donc, c'est quand même un roman qui est très intéressant si on s'intéresse à l'ermite, mais c'est pas, je dirais, c'est pas le grand classique méconnu de notre littérature. Oui, c'est ça, Damas Potvin. Mais la plupart du temps, là, dans le cas de Damas Potvin, je ne me souviens pas précisément, mais je crois me souvenir qu'il se contente de reprendre pour l'essentiel ce qu'on trouvait déjà dans l'île Saint-Barnabé de Taché. Vous savez, pendant très longtemps, les historiens ont eu comme pratique de compiler, voire de reprendre impunément ce que les prédécesseurs avaient fait. Je crois que Damas Potvin, c'est pour l'essentiel ce qu'il fait. Il ajoute peut-être deux ou trois petits détails de son cru. Mais on a très peu de sources. On a quelques documents, quelques archives notariales qui nous renseignent un peu sur le personnage. Mais en revanche, on ne sait à peu près rien de ses motivations. Et ça pose un vrai problème dans le contexte du 18e siècle, puisqu'au 18e siècle, entre autres, le pouvoir pontifical va essayer par tous les moyens d'amener les évêques à interdire toute forme d'érémitisme qui ne serait pas inscrite dans le cadre d'une communauté religieuse ou qui ne procéderait pas d'une permission spéciale de l'évêque. Et manifestement, dans le cas de Louis de Toussaint-Cartier, ça n'était pas le cas.
Ça n'était pas le cas, puisque dans les documents, justement, les actes notariés qu'on a conservés, il n'est pas question de permission spéciale de l'évêque de Québec. Et il y avait eu quelques années auparavant, à Trois Pistoles, donc à 50 kilomètres, un autre ermite, mais celui-là était un véritable imposteur, puisque c'était un bénédictin en rupture d'ordre qui avait quitté l'Europe pour éviter de renoncer à ses idées jansénistes. Et le seul moyen qu'il avait trouvé, c'était en quelque sorte de s'isoler au beau milieu de nulle part, à Trois Pistoles. Mais les jésuites autour de l'évêque de Québec veillaient au grain et ont fait en sorte de le retrouver et de l'amener à abjurer son jansénisme. Et le personnage en question va finir par quitter de façon un petit peu clandestine la Nouvelle-France pour se retrouver à Amsterdam, évidemment, parmi les communautés d'exilés. Là, tous les mal-sentants de la foi, évidemment, se retrouvaient aux Pays-Bas à l'époque. Et donc, il va se retrouver là et puis il va publier un texte sur son expérience pour dénoncer l'évêque de Québec, les jésuites, etc. Mais Toussaint-Cartier, on ne sait pas s'il était lui aussi comme cet ermite qui s'appelait Dupont-Poulet. Je ne sais plus. Je crois que son vrai nom, c'était Poulet. Et quand il était en Nouvelle-France, il avait pris le nom de Dupont ou l'inverse. Mais dans le cas de Toussaint-Cartier, les éléments nous manquent, là. C'est ça, exactement. C'est dans ces dates-là, tout à fait.
Il y a un autre point qui m'avait fait sursauter. Les Amérindiens massacrés à l'île au massacre du Pic seraient soit des Malécites, soit des Micmacs. C'est pas tout à fait la même chose.
Non, c'est pas tout à fait la même chose. La source de tâcher là-dessus, c'est Jacques Cartier. Alors, Jacques Cartier ne parle ni de Malécites ni d'Iroquois. Il est question des Toudamans, et je ne sais plus le nom de l'autre tribu amérindienne. Mais Taché, lui, grâce à ses échanges avec les Amérindiens de Rimouski, croit avoir retrouvé la source. Et la raison pour laquelle j'ai parlé des Malécites et des Micmacs, c'est que, évidemment, c'est des Malécites qui sont massacrés, mais ce sont des Micmacs, pardon, qui sont massacrés dans la version de Taché, mais les Malécites, qui sont des alliés fidèles des Micmacs, viennent à la rescousse et vont se mettre à pourchasser ensuite les Iroquois. Oui, Isabelle Crevier, je crois. Alors, comme vous le savez, il y a eu un incendie à Lucar dans la nuit du 13 au 14 mai. Alors, je pense que mon exemplaire m'attend dans mon casier, mais je n'ai pas eu accès à mon bureau. La réouverture de mon aile, c'était aujourd'hui et je suis en... C'est assez important, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que le feu lui-même n'a pas causé autant de dégâts que l'eau, évidemment. Heureusement, le feu a été contenu, le feu a pris sur le toit dans les combles. Et Lucar, comme vous savez, c'est un ancien monastère des Ursulines. Et toute l'enveloppe extérieure, c'est le beau monastère des Ursulines. Mais à l'intérieur, tout a été mis aux normes, si bien que tout est en béton. Et sous le beau toit mansard qui a brûlé, il y a une dalle de béton, ce qui a empêché le feu de se propager aux étages inférieurs. Sauf que, comme il y avait du propane sur le toit, là, j'entre vraiment dans les détails très intimes de l'histoire de Lucar, mais les pompiers ont mis 8 heures à éteindre l'incendie. Et vous savez peut-être, enfin, moi, je l'ai découvert avec stupeur, que les pompiers utilisent 3000 gallons à la minute. Donc, vous multipliez ça par 9 heures et vous imaginez l'état du pavillon principal. Donc, il faut... Alors, la structure n'a pas été touchée, le bâtiment est toujours debout, mais, je dirais, tous les services se trouvent dans ce pavillon principal. Il a fallu les relocaliser temporairement ailleurs pour refaire les cloisons de plâtre, pour remettre en place un équipement informatique fonctionnel, etc., etc. Donc, il y a quand même, là, je dirais, il y a des travaux qui sont en cours et qui vont nous mener, sans doute, au moins jusqu'en décembre prochain. Et le beau clocher, qui était un peu l'emblème de Lucar, ben, il est détruit, démoli, brûlé. Mais, il faut garder espoir, il sera reconstruit rapidement, mais probablement seulement en 2010. Oui.
Oui. L'acte de naissance de l'Institut était en page de mon article. Puis, juste dire que si ça intéresse, c'est en vente à la boutique de la Banque.
Et d'ailleurs, comme je n'ai pas eu mon exemplaire encore, je m'en suis procuré un en entrant ici. Et je dois dire que j'avais vu le PDF qui était disponible en ligne, mais le produit final imprimé est d'une beauté absolument éblouissante. La manière dont les illustrations sont mises en page, c'est tout à fait remarquable. C'est un véritable bijou. Et je pense que là, on a une preuve tangible et réelle que, malgré l'intérêt que peut représenter la numérisation, l'imprimé, ça reste l'imprimé. Il y aura toujours une sorte de valeur ajoutée à l'imprimé parce que, procurez-vous un exemplaire papier, comparé avec la version PDF et vous allez forcément parvenir aux mêmes conclusions que moi. Merci à vous.